Spinoza, Éthique, traduction Charles Apoun, partie 5, de la puissance de l'entendement ou de la liberté de l'homme. De la préface à la proposition 12 comprise. Préface. Je passe enfin à cette autre partie de l'éthique où il s'agit de la manière de parvenir à la liberté, ou de la voie y conduisant. J'y traiterai donc de la puissance de la raison, montrant ce que peut la raison elle-même contre les affections, et ensuite ce qu'est la liberté de l'âme ou béatitude. Par où nous verrons combien le sage l'emporte en pouvoir sur l'ignorant. Quant à la manière de porter l'entendement à sa perfection et à la voie y conduisant, ce sont choses qui n'appartiennent pas au présent ouvrage, non plus que l'art de traiter le corps de façon qu'il puisse remplir convenablement sa fonction. Cette dernière question est du ressort de la médecine, l'autre de la logique. Ici, comme je l'ai dit, je traiterai donc de la seule puissance de l'âme, c'est-à-dire de la raison. Et avant tout, je montrerai combien d'empire et quelle sorte d'empire elle a sur les affections pour les réduire et les gouverner. Nous n'avons pas en effet sur elles un empire absolu, comme nous l'avons déjà démontré. Les stoïciens, à la vérité, ont cru qu'elles dépendaient absolument de notre volonté et que nous pouvions leur commander absolument. Les protestations de l'expérience, non certes leurs propres principes, les ont cependant contraints de reconnaître la nécessité, pour réduire et gouverner les affections d'un exercice assidu et d'une longue étude. L'un d'eux s'est efforcé de le montrer par l'exemple de deux chiens, si j'ai bon souvenir, l'un domestique et l'autre de chasse. L'exercice, disait-il, peut faire que le chien domestique s'accoutume à chasser. Le chien de chasse, au contraire, à s'abstenir de la poursuite des lièvres. Cette opinion trouverait grande faveur auprès de Descartes, car il admet que l'âme ou la pensée est unie principalement à une certaine partie du cerveau, à savoir la petite glande dite pinéale. Par son moyen, l'âme a la sensation de tous les mouvements excités dans le corps et des objets extérieurs, et elle peut la mouvoir en divers sens par cela seul qu'elle le veut. Cette petite glande est suspendue, d'après lui, au milieu du cerveau, de telle façon qu'elle puisse être mue par le moindre mouvement des esprits animaux. De plus, cette glande, suspendue au milieu du cerveau, occupe autant de positions différentes qu'il y a de manière pour elle de recevoir le choc des esprits animaux. Et en outre, autant de traces différentes s'impriment en elle qu'il y a d'objets extérieurs différents poussant vers elle les esprits animaux. De sorte, si la glande, plus tard, se trouve, par la volonté de l'âme qui la meut diversement, occupée telle ou telle position qu'elle a précédemment occupée sous l'action des esprits animaux diversement agités, elle les poussera et les dirigera de la même façon qu'ils ont été repoussés quand la glande occupait cette même position. En outre, chaque volonté de l'âme est unie par la nature à un certain mouvement de la glande. Par exemple, si l'on a la volonté de regarder un objet éloigné, cette volonté fera que la pupille se dilate. Mais si l'on a seulement la pensée que la pupille devrait se dilater, il ne servira de rien d'en avoir la volonté, parce que la nature n'a pas joint le mouvement de la glande servant à pousser les esprits animaux vers le nerf optique de la façon qui convient pour dilater ou contracter la pupille, à la volonté de la dilater ou de la contracter, mais seulement à la volonté de regarder des objets éloignés ou rapprochés. Enfin, bien que chaque mouvement de la glande pinéale paraisse lié par la nature au commencement de la vie à telle pensée singulière parmi celles que nous formons, il peut cependant, en vertu de l'habitude, être joint à d'autres, comme il s'efforce de le prouver, article 50, partie 1 des Passions de l'âme. Il conclut de là que nulle âme, pour faible qu'elle soit, n'est incapable, avec une bonne direction, d'acquérir un pouvoir absolu sur ses passions. Elles sont en effet, suivant sa définition, des perceptions ou des sentiments ou des émotions de l'âme qui se rapportent exclusivement à elle et qui, nota bene, sont produites, entretenues et fortifiées par quelques mouvements des esprits. Voir article 7, partie 1 des Passions de l'âme. Mais, puisque nous pouvons joindre à une volonté quelconque un mouvement quelconque de la glande et conséquemment des esprits, et que la détermination de la volonté dépend de notre seul pouvoir, si nous déterminons notre volonté par des jugements fermes et assurés, suivant lesquels nous voulons diriger les actions de notre vie, et joignons à ces jugements les mouvements des passions que nous voulons avoir, nous acquérons un empire absolu sur nos passions. Telle est la manière de voir de cet homme très célèbre, autant que je peux le conjecturer d'après ses paroles. Et j'eusse peine à croire qu'elle provint d'un homme si elle était moins subtile. En vérité, je ne puis assez m'étonner qu'un philosophe, après s'être fermement résolu à ne rien déduire que des principes connus d'eux-mêmes et à ne rien affirmer qu'il ne le perçût clairement et distinctement, après avoir si souvent reproché aux scolastiques de vouloir expliquer les choses obscures par des qualités occultes, admette une hypothèse plus occulte que toute qualité occulte. Qu'entend-il, je le demande, par l'union de l'âme et du corps? Quelle conception claire et distincte a-t-il d'une pensée très étroitement liée à une certaine petite portion de l'étendue? Je voudrais bien qu'il eût expliqué cette union par sa cause prochaine. Mais il avait conçu l'âme distincte du corps, de telle sorte qu'il n'a pu assigner aucune cause singulière, ni de cette union, ni de l'âme elle-même, et qu'il lui a été nécessaire de recourir à la cause de tout l'univers, c'est-à-dire à Dieu. Je voudrais, de plus, savoir combien de degrés de mouvement l'âme peut imprimer à cette glande pinéale et avec quelle force la tenir suspendue. Je ne sais, en effet, si cette glande est mue par l'âme de ci, de là, plus lentement ou plus vite que par les esprits animaux, et si les mouvements de passion que nous avons joints étroitement à des jugements fermes ne peuvent pas en être disjoints par des causes corporelles. D'où suivrait qu'après s'être fermement proposé d'aller à la rencontre des dangers et avoir joint à ce décret des mouvements d'audace, à la vue du péril, la glande se trouva occupée une position telle que l'âme ne put penser qu'à la fuite. Et certes, n'y ayant nulle commune mesure entre la volonté et le mouvement, il n'y a aucune comparaison entre la puissance ou les forces de l'âme et celle du corps. Conséquemment, les forces de ce dernier ne peuvent être dirigées par celles de la première. Ajoutez qu'on cherche en vain une glande située au milieu du cerveau, de telle façon qu'elle puisse être mue de ci, de là, avec tant d'aisance et de tant de manières, et que tous les nerfs ne se prolongent pas jusqu'aux cavités du cerveau. Je laisse de côté, enfin, tout ce qu'affirme Descartes sur la volonté et sa liberté, puisque j'en ai assez surabondamment montré la fausseté. Puis donc, que la puissance de l'âme se définit, je l'ai fait voir plus haut, par la science seule qui est en elle, nous déterminerons les remèdes aux affections, remèdes dont tous ont, je crois, quelque expérience. mais qu'il n'observe pas avec soin et ne voit pas distinctement par la seule connaissance de l'âme. Et nous en déduirons tout ce qui concerne sa béatitude. Axiome 1. Si, dans le même sujet, deux actions contraires sont excitées, un changement devra nécessairement avoir lieu dans l'une et l'autre, ou dans l'une seulement des deux, jusqu'à ce qu'elles cessent d'être contraires. 2. La puissance d'un effet se définit par la puissance de sa cause, dans la mesure où son essence s'explique ou se définit par l'essence de sa cause. Cet axiome est évident par la proposition 7, partie 3. Proposition 1. Suivant que les pensées et les idées des choses sont ordonnées et enchaînées dans l'âme, les affections du corps, c'est-à-dire les images des choses, sont corrélativement ordonnées et enchaînées dans le corps. Démonstration. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Proposition 7, partie 2. Et inversement, l'ordre et la connexion des choses sont les mêmes que l'ordre et la connexion des idées. Corollaire des propositions 6 et 7, partie 2. De même donc que l'ordre et la connexion des idées dans l'âme se règlent sur l'ordre et l'enchaînement des affections du corps, proposition 18, partie 2, de même, inversement, proposition 2, partie 3, l'ordre et la connexion des affections du corps se règlent sur l'ordre et l'enchaînement des pensées et des idées des choses dans l'âme. C'est QFD. Proposition 2. Si nous séparons une émotion ou une affection de l'âme de la pensée d'une cause extérieure et la joignons à d'autres pensées, l'amour et la haine à l'égard de la cause extérieure sont détruits, de même que les fluctuations de l'âme naissant de ses affections. Démonstration. Ce qui, en effet, constitue la forme de l'amour ou de la haine, c'est une joie ou une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Définition 6 et 7 des affections. Cette idée, ôtée donc, la forme de l'amour et de la haine, est ôtée du même coup. Et ainsi, ces affections et celles qui en naissent sont détruites. C'est QFD. Proposition 3. Une affection qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. Démonstration. Une affection qui est une passion est une idée confuse. Définition générale des affections. Si donc nous formons de cette affection une idée claire et distincte, il n'y aura entre cette idée et l'affection elle-même, en tant qu'elle leur apporte à l'âme seule, qu'une distinction de raison. Proposition 21, partie 2, avec son scoli. Et ainsi, proposition 3, partie 3, l'affection cessera d'être une passion. C'est QFD. Corollaire. Une affection est d'autant plus en notre pouvoir et l'âme en pâtit d'autant moins que cette affection nous est plus connue. Proposition 4. Il n'est point d'affection du corps dont nous ne puissions former quelques concepts clairs et distincts. Démonstration. Ce qui est commun à toute chose ne peut se concevoir qu'adéquatement. Proposition 38, partie 2. Par suite, proposition 12 et l'aime 2, après le scoli de la proposition 13, partie 2, il n'est point d'affection du corps dont nous ne puissions former quelques concepts clairs et distincts. C'est QFD. Corollaire. Il suit de là qu'il n'est point d'affection de l'âme dont nous ne puissions former quelques concepts clairs et distincts. Une affection de l'âme est en effet l'idée d'une affection du corps, définition générale des affections. Et, en conséquence, proposition précédente, doit envelopper quelques concepts clairs et distincts. Scoli. Puisqu'il n'y a rien d'où ne suive quelque effet, proposition 36, partie 1, et que nous connaissons clairement et distinctement, proposition 40, partie 2, tout ce qui suit d'une idée qui est adéquate en nous. Il suit de là que chacun a le pouvoir de se connaître lui-même et de connaître ses affections, sinon absolument, du moins en partie, clairement et distinctement, et de faire en conséquence qu'il est moins à en pâtir. À cela, nous devons travailler surtout à connaître, veux-je dire, autant que possible, chaque affection clairement et distinctement, de façon que l'âme soit déterminée par chaque affection à penser ce qu'elle perçoit clairement et distinctement et où elle trouve un plein contentement. Et pour qu'ainsi dire, l'affection elle-même soit séparée de la pensée d'une cause extérieure et jointe à des pensées vraies. Par où il arrivera que non seulement l'amour, la haine, etc. seront détruits, proposition 2, mais que l'appétit aussi et les désirs naissants habituellement de cette affection ne pourront avoir d'excès, proposition 61, partie 4. Car il faut noter avant tout que c'est un seul et même appétit par lequel l'homme est dit également bien, actif et passif. Par exemple, nous avons montré qu'en vertu d'une disposition de la nature humaine, chacun appète que les autres vivent selon sa propre complexion. Scoli de la proposition 31, partie 3. Dans un homme qui n'est pas dirigé par la raison, cet appétit est une passion, appelée ambition, et qui ne diffère guère de l'orgueil. Au contraire, dans un homme qui vit suivant le commandement de la raison, c'est une action, c'est-à-dire une vertu appelée moralité, voir Scoli de la proposition 37, partie 4, et démonstration de cette même proposition. Et de cette même manière, tous les appétits ou désirs sont des passions en tant seulement qu'ils naissent d'idées inadéquates. Et ces mêmes désirs sont tenus pour vertus quand ils sont excités ou engendrés par des idées adéquates. Tous les désirs, en effet, par où nous sommes déterminés à faire quelque chose, peuvent naître aussi bien d'idées adéquates que d'inadéquates. Proposition 59, partie 4. Et, pour revenir au point d'où je me suis écartée dans cette digression, outre ce remède aux affections qui consiste dans leur connaissance vraie, on n'en peut concevoir aucun autre plus excellent qui soit en notre pouvoir, puisqu'il n'y a d'autre puissance de l'âme que celle de penser et de former des idées adéquates. Ainsi que, proposition 3, partie 3, nous l'avons montré précédemment. Proposition 5. Une affection à l'égard d'une chose que nous imaginons simplement, et non comme nécessaire, ni comme possible ou comme contingente, est, toute chose égale, la plus grande qui soit. Démonstration. Une affection à l'égard d'une chose que nous imaginons qui est libre est plus grande qu'à l'égard d'une chose nécessaire. Proposition 49, partie 3. Et en conséquence, encore plus grande qu'à l'égard de celle que nous imaginons comme possible ou contingente. Proposition 11, partie 4. Mais imaginer une chose comme libre ne peut rien être d'autre qu'imaginer une chose simplement, tandis que nous ignorons les causes par où elle a été déterminée à produire quelque effet, en vertu de ce que nous avons montré dans le scoli de la proposition 35, partie 2. Donc, une affection à l'égard d'une chose que nous imaginons simplement est plus grande, toutes choses égales, qu'à l'égard d'une chose nécessaire, possible ou contingente. Et conséquemment, elle est la plus grande qui soit. C'est QFD. Proposition 6. Dans la mesure où l'âme connaît toutes choses comme nécessaires, elle a sur les affections une puissance plus grande, c'est-à-dire qu'elle en pâtit moins. Démonstration. L'âme connaît que toutes choses sont nécessaires, proposition 21, partie 1, et sont déterminées à exister et à produire quelque effet par une liaison infinie de causes. Proposition 28, partie 1. Cela fait, proposition précédente, qu'à proportion de la connaissance qu'elle a des choses, elle pâtit moins des affections en provenant et, proposition 48, partie 3, est moins affectée à l'égard des choses elles-mêmes. C'est QFD. Scoli. Plus cette connaissance que les choses sont nécessaires a trait à des choses singulières, et plus ces dernières sont imaginées distinctement et vivement, plus grande est la puissance de l'âme sur les affections. L'expérience elle-même l'atteste. Nous voyons en effet la tristesse causée par la perte d'un bien adoucie sitôt que le perdant considère que ce bien ne pouvait être conservé par aucun moyen. De même, nous voyons que personne ne prend un enfant en commisération parce qu'il ne sait pas parler, marcher, raisonner, et vit tant d'années presque sans conscience de lui-même. Si au contraire, la plupart naissaient adultes, et que tel ou tel naquit enfant, alors chacun prendrait les enfants en commisération, parce qu'alors on considérerait l'enfance non comme une chose naturelle et nécessaire, mais comme un vice ou un péché de la nature. Et nous pourrions faire plusieurs observations de cette sorte. Proposition 7. Les affections tirant leur origine de la raison ou excitées par elle sont, si l'on tient compte du temps, plus puissantes que celles qui se rapportent à des choses singulières considérées comme absentes. Démonstration. Nous ne considérons pas une chose comme absente par suite de l'affection qui nous fait l'imaginer, mais parce que le corps éprouve une autre affection, excluant l'existence de cette chose. Proposition 17, partie 2. C'est pourquoi l'affection se rapportant à la chose considérée comme absente n'est pas d'une nature telle qu'elle l'emporte sur les autres actions et la puissance de l'homme. Voir à leur sujet, proposition 6, partie 4. Mais au contraire, d'une nature telle qu'elle puisse être réduite en quelque manière par les affections excluant l'existence de sa cause extérieure. Proposition 9, partie 4. Or, une affection tirant son origine de la raison se rapporte nécessairement aux propriétés communes des choses. Voir la définition de la raison dans le Scoli 2 de la proposition 40, partie 2, que nous considérons toujours comme présente, il ne peut rien y avoir en effet qui en exclut l'existence présente, et que nous imaginons toujours de la même manière, proposition 38, partie 2. C'est pourquoi une telle affection demeure toujours la même, et en conséquence, les affections qui lui sont contraires et qui ne sont point alimentées par leurs causes extérieures devront, axiome 1, de plus en plus s'accommoder à elles jusqu'à ce qu'elles ne lui soient plus contraires. Et en cela, une affection tirant son origine de la raison est plus puissante. C'est QFD. Proposition 8. Plus il y a de causes concourant à la fois à exciter une affection, plus grande elle est. Démonstration. Plusieurs causes, ensemble, peuvent plus qu'un nombre moindre. Proposition 7, partie 3. Par suite, proposition 5, partie 4, plus il y a de causes excitant à la fois une affection, plus forte elle est. C'est QFD. Scoli. Cette proposition est évidente aussi par l'axiome 2. Proposition 9. Une affection se rapportant à plusieurs causes différentes, que l'âme considère en même temps qu'elle est affectée, est moins nuisible, nous en pâtissons moins, et nous sommes moins affectés à l'égard de chaque cause en particulier que s'il s'agissait d'une autre affection, également grande, se rapportant à une seule cause ou à un nombre moindre de causes. Démonstration. Une affection n'est mauvaise ou nuisible qu'en tant qu'elle empêche l'âme de penser. Propositions 26 et 27, partie 4. Par suite, cette affection par laquelle l'âme est déterminée à considérer plusieurs objets à la fois est moins nuisible qu'une autre, également grande, retenant l'âme dans la seule considération d'un objet unique ou d'un nombre moindre d'objets, de façon qu'elle ne puisse penser à d'autres, ce qui était le premier point. De plus, puisque l'essence de l'âme, c'est-à-dire sa puissance, proposition 7, partie 3, consiste dans la seule pensée, proposition 11, partie 2. L'âme pâtit moins d'une affection qui lui fait considérer plusieurs objets que d'une affection également grande, tenant l'âme occupée à la seule considération d'un objet unique ou d'un nombre moindre d'objets, ce qui était le second point. Enfin, cette affection, proposition 48, partie 3, d'autant qu'elle se rapporte à plusieurs causes extérieures, est moindre à l'égard de chacune. CQFD. Proposition 10. Aussi longtemps que nous ne sommes pas dominés par des affections qui sont contraires à notre nature, nous avons le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps suivant un ordre valable pour l'entendement. Démonstration. Les affections qui sont contraires à notre nature, c'est-à-dire proposition 30, partie 4, mauvaises, sont mauvaises dans la mesure où elles empêchent l'âme de connaître. Proposition 27, partie 4. Aussi longtemps, donc, que nous ne sommes pas dominés par des affections qui sont contraires à notre nature. La puissance de l'âme, par où elle s'efforce à connaître, proposition 26, partie 4, n'est pas empêchée. Et elle a donc, aussi longtemps, le pouvoir de former des idées claires et distinctes, et de les déduire les unes des autres. Voir Scoli 2, de la proposition 40 et Scoli de la proposition 47, partie 2. Et conséquemment, proposition 1, aussi longtemps que nous avons le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps suivant un ordre valable pour l'entendement. CQFD. Scoli. Par ce pouvoir d'ordonner et d'enchaîner correctement les affections du corps, nous pouvons faire en sorte de n'être pas aisément affectés d'affections mauvaises. Car, proposition 7, une plus grande force est requise pour réduire des affections ordonnées et enchaînées suivant un ordre valable pour l'entendement que si elles sont incertaines et vagues. Le mieux, donc, que nous puissions faire, tant que nous n'avons pas une connaissance parfaite de nos affections, est de concevoir une conduite droite de la vie, autrement dit, des principes assurés de conduite, de les imprimer en notre mémoire et de les appliquer sans cesse aux choses particulières qui se rencontrent fréquemment dans la vie, de façon que notre imagination en soit largement affectée et qu'il nous soit toujours présent. Nous avons, par exemple, posé parmi les règles de la vie proposition 46, partie 4, avec le Scoli, que la haine doit être vaincue par l'amour et la générosité, et non compensée par une haine réciproque. pour avoir ce précepte de la raison toujours présent quand il sera utile. Il faut penser souvent aux offenses que se font communément les hommes et méditer sur elles, ainsi que sur la manière et le moyen de les repousser le mieux possible par la générosité. De la sorte, en effet, nous joindrons l'image de l'offense à l'imagination de cette règle, et elle ne manquera jamais de s'offrir à nous, proposition 18, partie 2, quand une offense nous sera faite. Si nous avions aussi présente la considération de notre intérêt véritable et du bien que produit une amitié mutuelle et une société commune, si de plus nous ne perdions pas de vue qu'un contentement intérieur souverain naît de la conduite droite de la vie, proposition 52, partie 4, et que les hommes comme les autres êtres agissent par une nécessité de nature. Alors, l'offense, c'est-à-dire la haine qui en est habituellement, occupera une très petite partie de l'imagination et sera facilement surmontée. Ou, si la colère qui naît habituellement des offenses les plus graves n'est pas surmontée aussi aisément, elle le sera cependant, bien que non sans fluctuation de l'âme, en un espèce de temps beaucoup moindre que si nous n'avions pas eu d'avance l'âme occupée par ses méditations, comme on le voit par les propositions 6, 7 et 8. De même, il faut penser à l'emploi, pour écarter la crainte, de la fermeté d'âme. On doit passer en revue et imaginer souvent les périls communs de la vie et comment on peut le mieux les écarter et les surmonter par la présence d'esprit et la force d'âme. Mais on doit noter qu'en ordonnant nos pensées et nos images, il nous faut toujours avoir égard, corollaire de la proposition 63, partie 4, et proposition 59, partie 3, à ce qu'il y a de bon en chaque chose, afin d'être ainsi toujours déterminé à agir par une affection de joie. Si, par exemple, quelqu'un voit qu'il est trop épris de la gloire, qu'il pense au bon usage qu'on peut en faire et à la fin en vue de laquelle il la faut chercher, ainsi qu'au moyen de l'acquérir, mais non au mauvais usage de la gloire et à sa vanité, ainsi qu'à l'inconstance des hommes, ou à d'autres choses de cette sorte, auxquelles nul ne pense sans chagrin. Par de telles pensées, en effet, les plus ambitieux se laissent le plus affligés quand ils désespèrent de parvenir à l'honneur dont ils ont l'ambition, et ils veulent paraître sages alors qu'ils écument de colère. Il est donc certain que ceux-là sont le plus désireux de gloire qui parlent le plus haut de son mauvais usage et de la vanité du monde. Cela, d'ailleurs, n'est pas le propre des ambitieux, mais est commun à tous ceux à qui la fortune est contraire et qui sont intérieurement impuissants. Quand il est pauvre, l'avare aussi ne cesse de parler du mauvais usage de l'argent et des vices des riches, ce qui n'a d'autre effet que de l'affliger et de montrer aux autres qu'il prend mal non seulement sa propre pauvreté, mais la richesse d'autrui. De même encore, ceux qui sont mal accueillis par leur maîtresse ne pensent à rien qu'à l'inconstance des femmes et à leur fausseté de cœur, ainsi qu'aux autres vices féminins dont parle la chanson. Et tout cela est oublié, sitôt que leur maîtresse les accueille de nouveau. Qui donc travaille à gouverner ses affections et ses appétits par le seul amour de la liberté, il s'efforcera autant qu'il peut de connaître les vertus et leurs causes et de se donner la plénitude d'épanouissement qui naît de leur connaissance vraie. Non du tout de considérer les vices des hommes, de rabaisser l'humanité et de s'épanouir d'une fausse apparence de liberté. Et qui observera cette règle diligemment, cela n'est pas difficile, et s'exercera à la suivre, certes, il pourra, en un court espace de temps, diriger ses actions suivant le commandement de la raison. Proposition 11. Plus il y a de choses auxquelles se rapporte une image, plus elle est fréquente, c'est-à-dire plus souvent elle devient vive et plus elle occupe l'esprit. Démonstration. Plus il y a de choses, en effet, auxquelles se rapporte une image ou une affection, plus il y a de causes par où elle peut être excitée et alimentée, causes que l'âme, par hypothèse, considère toutes à la fois en vertu même de l'affection. Et ainsi, l'affection est d'autant plus fréquente, c'est-à-dire d'autant plus souvent vive, et, proposition 8, occupe l'âme d'autant plus. CQFD. Proposition 12. Les images des choses se joignent plus facilement aux images se rapportant aux choses connues clairement et distinctement qu'aux autres. Démonstration. Les choses connues clairement et distinctement sont ou bien des propriétés communes des choses ou ce qui s'en déduit, voire définition de la raison dans le scoli 2 de la proposition 40, partie 2. Et en conséquence, sont, proposition précédente, plus souvent imaginées par nous. Il nous sera donc plus facile, quand nous imaginerons d'autres objets, de considérer en même temps ces choses connues que d'en considérer d'autres, et en conséquence, plus facile, proposition 18, partie 2, de joindre à d'autres objets ces choses connues que d'autres. CQFD.